Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Béatifié en 2016, le père Marie-Eugène est un grand maître de la spiritualité carmélitaine. Il est fêté le 4 février, jour anniversaire de son ordination sacerdotale à Rodez, découverte de celui qui voulait voir Dieu avec frère Baptiste Carme au couvent de Toulouse. Troisième d'une fratrie de cinq, Henri Grialoux pense dès 9 ans au sacerdoce. En 1920, à la lecture d'une biographie de Saint Jean de la Croix qu'il trouve insipide, il reçoit une lumière inattendue et fulgurante. « C'est ça !» s'exclame Henri Grialoux. « Je n'avais jamais vu de Carme. C'était pourtant une évidence, une certitude. Il fallait que j'entre au Carmel. » Il est ordonné prêtre en 1922 et reçoit le nom de Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Frère Baptiste, bonjour d'abord.
Bonjour.
Pardon, je ne vous ai pas salué. Pourquoi cet attrait fulgurant pour le Carmel ?
Vous l'avez dit, il lit une biographie de Jean de la Croix insipide. C'est ça qui est... intéressant, c'est que ce n'est pas l'art littéraire de cette biographie qui l'a séduit, mais c'est la personne de Jean de la Croix. Et je crois que derrière la vocation du Père Marie-Eugène, mais d'autres vocations au Carmel, il y a cette rencontre mystérieuse avec la personne de Jean de la Croix, qui fait peur à beaucoup, mais qui parfois, en fait, rencontre certains justement leur apprend... on pourrait dire les voies de l'union à Dieu, dans ce qu'elles ont parfois de plus vertigineuses. Et Jean de la Croix, comme je disais, fait peur à certains. En réalité, pour ceux qui justement veulent se rapprocher de Dieu, il est un maître et un consolateur, parce que justement, il met de la lumière sur des questions qui sont parfois obscures, c'est-à-dire pourquoi suis-je dans la sécheresse, dans l'oraison, pourquoi c'est si difficile. Pourquoi même ai-je l'impression d'être rejeté par Dieu à certains moments de la vie spirituelle ? Et Jean de la Croix est là pour justement consoler les âmes et leur dire que non, elles ne sont pas loin de Dieu, mais peut-être plus proches qu'elles ne le pensaient. Et donc, le père Marie-Eugène, à travers cette biographie mauvaise de Jean de la Croix, je pense, rencontre cette personne-là découvre dans son enseignement, dans son expérience, dans sa quête de Dieu, l'écho de son propre désir. Et donc, il y a cette certitude qui n'est pas que naturelle. Hein, il y a probablement une intervention de Dieu aussi. Mmh. Voilà. Donc, je crois que Jean de la Croix n'est pas pour rien. Même si on verra, on le dira, hein, qu'à travers le grand enseignement du Père Marie-Eugène, « Je veux voir Dieu », c'est Thérèse d'Avila qu'il choisit comme mère et comme, on pourrait dire, tutrice. Mmh. Mais cette rencontre avec Jean de la Croix va être décisive pour lui.
Alors, vous avez effectivement évoqué cette amitié avec Thérèse d'Avila. Et c'est vrai que dans le Bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus a écrit de nombreux livres. L'un d'eux, qui est quand même un best-seller, il a déjà été publié à plus de 100 000 exemplaires et traduit en plusieurs langues, s'appelle « Je veux voir Dieu ». C'est un livre, on pourrait dire, pratique, qui est destiné à éclairer une expérience spirituelle. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement, frère Baptiste ?
Alors, déjà, je dirais qu'il devient, c'est un livre du XXe siècle, mais il devient un classique. Oui. C'est-à-dire que le pape François l'a donné à tous les cardinaux de la curie au début de son pontificat. Donc, c'était comme un signe en disant, voilà le manuel indispensable, si vous voulez, honorer l'appel du Concile Vatican II, c'est-à-dire l'appel universel à la sainteté. Et c'est ça, on pourrait dire, le propre de ce livre, c'est qu'il vous prend par la main du début jusqu'à la fin. Et plutôt que de faire de la sainteté une belle théorie, il vous montre les voies concrètes qui montrent qu'effectivement c'est un chemin, c'est une croissance, il y a des étapes à ne pas manquer. Et donc le Père Marie-Eugène reprend l'enseignement de ceux qui vont devenir, parce qu'ils ne le sont pas encore, les docteurs du Carmel, donc Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et la petite Thérèse, et en fait probablement l'une des meilleures synthèses qui existent aujourd'hui. Et donc, ce livre est un gros livre. on l'a édité aux éditions du Carmel en papier Bible, parce qu'il faut qu'il puisse...
Oui, là, je le vois sur la table du studio. Il fait 400 pages à peu près.
Ah, même plus.
Même
plus. Un millier de pages à peu près.
Ah, oui.
Précisément, c'est 1300 pages.
Ah,
donc
oui.
C'est... Mais c'est vrai que c'est devenu un classique parce que il reprend, on pourrait dire, avec méthode, sans d'ailleurs un langage trop abscon, hein. Bon, il est publié au milieu du XXe siècle, donc il n'est pas daté, mais il est quand même issu de cette période. Mais donc, dans un langage clair, dans un bon français, il rend assez accessible l'enseignement des Saints du Carmel, qui nous est parfois un peu distant. Il y a 5 siècles qui nous séparent de Saint Jean de la Croix et Thérèse Avila. Et donc, le Père Marie-Eugène a cette grâce de les rendre accessibles. Et donc, le succès, on pourrait dire, de cet ouvrage est le signe d'une mission réussie, on pourrait dire. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a, dans cet ouvrage, il n'y a que cette synthèse des Saints du Carmel? Est-ce qu'il n'y a pas aussi son expérience spirituelle qui transparaît?
Exactement, bien sûr. Et certains chapitres, même, on pourrait dire, sont de la patte du Père Marie-Eugène. En particulier, il y en a un qui s'appelle « La sagesse d'amour ». Et à travers sa contemplation de la sagesse éternelle, donc qui est Dieu, il voit justement le dessein de Dieu qui se réalise dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dans l'Église. Et à travers cette notion de la sagesse d'amour, il voit aussi Dieu en tant qu'il sanctifie les âmes. Et donc, on pourrait dire que ce serait même trivial de le dire comme ça, mais disons-le quand même. Jean de la Croix et Thérèse Avila sont un peu la tête dans le guidon, c'est-à-dire qu'ils contemplent l'action de Dieu dans les âmes individuelles. Et c'est vrai que le Père Marie-Eugène va souvent nous inviter à élever le regard et voir comment cette sanctification individuelle correspond à un dessein général de Dieu sur le monde. Et on pourrait dire, c'est comme la fine fleur de l'œuvre créatrice de Dieu. Eh bien, c'est de produire des saints. Donc, cette sagesse qui s'est manifestée dans la création, dans l'éducation du peuple d'Israël, qui a été couronnée par l'avènement du Messie, Jésus, et l'édification de son Église, eh bien, elle se manifeste de la manière la plus éclatante quand elle sanctifie des âmes. Voilà. Et donc, ça, c'est un chapitre qui est de la patte, on pourrait dire, du Père Marie-Eugène. Et un autre chapitre qu'on trouve à la fin de Je veux voir Dieu, qui est le saint dans le Christ total, et qui a un peu justement cette même attention, c'est de voir qu'effectivement, quand un saint est sanctifié, il est inséré dans le corps mystique du Christ, et chacun de ses actes de vertu et de charité va avoir un retentissement sur toute l'Église. Et donc, c'est en particulier l'exemple éclatant à son époque de la petite Thérèse, hein, qui, depuis son Carmel de Lisieux, en ramassant l'épingle, comme elle le oui. dit, va participer à la mission universelle de l'Église. Et donc, c'est ça, on pourrait dire, je pense, la spécificité du Père Marie-Eugène, c'est donc de reprendre cet enseignement des docteurs qui l'ont précédé, mais aussi de l'insérer dans une vision de sagesse qui concerne toute l'Église.
Oui, j'aimerais bien quand même, frère Baptiste, que vous précisiez cette notion de corps mystique du Christ.
Oui, parce que c'est vrai que alors, c'est une notion qui est revenue à la mode à travers l'enseignement du père Henri de Lubac et qui d'abord signifiait en fait le corps de Jésus dans son Eucharistie et qui ensuite a désigné plutôt dans l'enseignement des docteurs de l'Église et de la tradition l'Église en tant qu'elle est un corps vivant, c'est-à-dire Jésus continué. Il y a le corps individuel de Jésus, c'est-à-dire le Verbe s'est fait chair, il a marché sur les routes de Galilée, il s'est offert sur la croix, sur le Golgotha, mais ce corps individuel de Jésus n'est pas la totalité, on pourrait dire, de son corps, puisque, comme le montre saint Paul dans ses épîtres aux Corinthiens et encore plus aux Éphésiens, eh bien, Jésus est la tête d'un corps mystique dont nous sommes les membres. Et donc, saint Paul le dit bien, hein, ses membres, il y a la tête, les pieds, etc. Et chacun a besoin les uns des autres. Et finalement, chacun est lié les uns aux autres par cette âme de l'Église qui est l'Esprit Saint. Et donc, c'est vrai, c'est ça qui est une vérité que le Père Marie-Eugène nous invite à découvrir et peut-être à nous en émerveiller toujours plus, c'est que finalement je suis fidèle à mon temps de prière ou que je vais me dévouer dans le service fraternel, eh bien l'acte de charité que je vais poser ne me concerne pas que moi seul dans ma relation avec Dieu ou avec le frère que je vais servir, mais cet acte de charité va avoir un impact sur tous ceux qui me sont liés, que je vois et que je ne vois pas, qui sont au ciel, au purgatoire ou sur la terre. Et donc nous sommes tous liés mystérieusement par la charité, par le lien de l'esprit. Et voilà ce que saint Paul nous a fait découvrir en premier à travers cette notion du corps de Jésus, et que lui-même découvre sur le chemin de Damas. Hein, « Pourquoi me persécutes-tu » lui dit Jésus, alors qu'il persécute les chrétiens. Et que et c'est cette vérité, finalement, que chaque chrétien est appelé à découvrir, probablement aussi à une certaine étape de maturité spirituelle.
Voilà. Oui.
Et ça aussi, le Père Marie-Eugène, dans cette grande synthèse de « Je veux voir Dieu », nous indique les moments où cette vérité devient plus vivante pour nous. Au début, nous pourrions penser que nous sommes isolés et que notre temps d'oraison est un acte d'héroïsme personnel, parce que parfois la prière et l'oraison peut être difficile. Et il y a d'autres moments où finalement, effectivement, notre vie de prière s'approfondissant, nous découvrons de plus en plus liés les uns aux autres.
Oui, oui, c'est la communion des saints.
Exactement. Mmh.
Le Père Marie-Eugène a un grand désir du salut des âmes, mais pas à la manière de Saint Dominique qui pleurait la nuit sur le sort des pécheurs. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il entendait à travers ce désir ?
Oui, il a. Alors c'est un peu même une phrase qu'on retrouve souvent citée de lui, hein, c'est qu'il sent que sa mission est de conduire les âmes à Dieu. Et donc, on pourrait dire qu'il souhaite non seulement le salut en général, c'est-à-dire qu'effectivement, tous ceux pour qui il prie, il puisse les retrouver au ciel, mais on pourrait dire qu'il souhaite le salut dans sa modalité concrète, qui est un chemin de sainteté. Et donc, en fait, un peu comme Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila s'en affligeaient à leur époque, il constate que certains ne parviennent pas à la mesure de la sainteté à laquelle ils sont appelés, faute, on pourrait dire, de doctrine et d'enseignement spirituel, faute d'accompagnement. Et donc, il voit que certains même pataugent dans leur vie spirituelle, pourraient penser qu'ils régressent et donc abandonnent tout. Ça, c'est la fameuse dynamique des nuits. Hein. J'ai l'impression d'être éloigné de Dieu, alors qu'en réalité, il s'approche de moi. Mais comme sa lumière est trop grande pour moi, il m'éblouit et je me sens dans l'obscurité. Donc ça, c'est, on pourrait dire, la grande lumière que Jean de la Croix donne dans son enseignement. C'est que quand vous vous sentez dans l'obscurité, ce n'est pas forcément un signe d'éloignement de Dieu. Et donc, justement, n'arrêtez pas de prier. Ne vous sentez pas désespéré. Parce qu'au contraire, c'est peut-être bon signe dans votre vie spirituelle.
Un signe d'éblouissement.
Voilà, exactement. Et donc, le Père Marie-Eugène, comme Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, constatent ça. C'est-à-dire que certains reculent ou n'avancent pas. Faute d'enseignement. Et donc, dans son désir de salut, il y a vraiment ce désir que chacun puisse parvenir, dès cette terre, à l'union à Dieu, c'est-à-dire à la sainteté. Pour lui, sainteté, appel universel à la sainteté de Lumen Gentium, union à Dieu, mariage spirituel ou septième demeure, ça c'est le langage de Thérèse d'Avila, tout ça ne fait qu'un, c'est-à-dire parvenir à la plénitude de notre vocation chrétienne, qui nous est communiqué, on pourrait dire, ou à laquelle nous sommes appelés dès le jour de notre baptême.
Et le Père Marie-Eugène a cette belle phrase, « Des gens qui cherchent Dieu, il y en a partout.
Oui.
Ah, si je pouvais les atteindre tous et leur parler de l'amour infini. »
Exactement. Donc, on peut penser qu'il est exaucé parce que depuis le ciel, il continue sa mission, hein, notamment à travers ces livres qu'on lit encore avec profit. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a, même avant de voir cet accomplissement au ciel, il est reconnu bien heureux par l'Église. Très probablement, sans trop que ça ne tarde, il sera canonisé. Alors on peut l'espérer et il y a de bons motifs de l'espérer. Donc on voit bien qu'il y a cette réalisation de son désir qui est déjà à contempler aujourd'hui. Mais plus profondément, je pense qu'il y a déjà dans l'éveil de ce désir, il y a déjà le signe de sa propre sainteté et sa mission qui se dessine à travers ce désir. Et le Père Marie-Eugène, comme grand disciple aussi de la petite Thérèse, est assez attentif justement au désir que Dieu met dans notre cœur et plutôt inviterait à ne pas les brimer, mais plutôt à les laisser s'exprimer et à être purifiés, parce qu'ils sont les signes de notre mission. Et donc, le Père Marie-Eugène, sa mission sur cette terre, mais aussi au ciel, c'est effectivement de conduire les âmes à Dieu, c'est-à-dire de les prendre par la main et de les faire passer, on pourrait dire, de demeure en demeure, ça c'est le langage de Thérèse Avila, jusqu'à la demeure la plus intérieure où Jésus nous attend pour nous sanctifier.
Mais ce salut des âmes ne peut pas se réaliser qu'en la prière. Que dit le Père Marie-Eugène à ce propos ?
Pour lui, vraiment, contemplation et action sont toujours liées. Donc, il y a des moments dans la vie spirituelle où effectivement, il faudra privilégier ces temps de solitude. Et d'ailleurs, tout le temps, il faudra toujours ménager ce temps d'intimité avec Dieu. Mais que l'on soit même dans un carmel contemplatif, il y a toujours des choses à faire. Et encore plus si on est dans le monde. C'est-à-dire que le signe de la vérité de notre prière sera justement cette disponibilité pour la mission ou l'humble réalisation du devoir d'État. Donc les deux se répondent toujours dans la vision du Père Marie-Eugène. On pourrait même dire que c'est une sorte de caractéristique de son enseignement. Il y a la sagesse d'amour, on l'a dit, hein, le saint dans le Christ total, mais action et contemplation bien unies. C'est-à-dire que pour lui, le saint n'est jamais aussi contemplatif que dans l'action et aussi actif que dans la contemplation. Ces deux réalités qu'on pourrait voir comme concurrentes,
ouais.
En fait, sont appelées, mais ça c'est la sagesse supérieure que donne l'esprit, hein. Elles sont appelées finalement à ne faire plus qu'un.
Elles se nourrissent l'une l'autre.
Exactement, exactement. Et là aussi, ça fait partie des pièges que peut-être le Père Marie-Eugène nous inviterait à identifier, c'est-à-dire de prendre comme prétexte d'un surcroît d'activité pour arrêter de prier. Et là, Marie-Eugène dirait, mais en fait, vous faites fausse route, parce que si vous avez un surcroît d'activité, c'est plutôt le moment de prier davantage, dans le sens où la prière vous donne la lumière et le discernement que vous n'auriez pas sans elle, et vous serez beaucoup plus efficace avec elle. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate chez les saints, c'est-à-dire que pour eux, en fait, en deux, trois actions, ils vont faire beaucoup plus de bien que pour nous, si nous n'avions pas pris ce temps de prière qui remet notre vie sous le regard de Dieu. On peut voir par exemple un Jean-Paul II dont quand même l'emploi du temps était
plutôt bien chargé.
Fourni. Bon, il est, comme tout le monde, il a fait quelques erreurs, on les connaît mieux maintenant. N'empêche que tout de même, quand on voit la fécondité d'une vie comme celle de Jean-Paul II, on peut se dire qu'effectivement, elle aurait été inconcevable sans justement cette priorité qu'il a accordée à la prière. Et ça, c'est vrai pour toute vie. Alors, les saints connus nous en donnent un exemple, mais il y a aussi tous ces saints inconnus, cette sainteté ordinaire à laquelle le Père Marie-Eugène était, peut-être avant l'heure d'ailleurs, très attentif, et à l'école de la petite Thérèse aussi. Et cette sainteté ordinaire, en fait, elle est féconde dans l'action, dans la mesure où elle est nourrie par la prière.
Oui. Voilà. Un dernier mot avant de faire une première pause musicale. Le frère Carme appelle l'Esprit Saint mon ami.
Oui.
C'est très beau cette proximité.
Oui, c'est vrai qu'il, pour lui, l'Esprit Saint n'est pas qu'une énergie ou une réalité évanescente. Souvent, on a une conception instrumentale de l'Esprit Saint,
ouais,
c'est-à-dire qu'on l'instrumentalise pour les dons qu'on attendrait de lui, qu'il m'éclaire, qu'il me donne sa force, très bien. Mais peut-être considérons, et le Père Marie-Eugène le découvre et nous le fait découvrir, c'est quand même quelqu'un. C'est une personne, donc la troisième personne de la Trinité, cet inconnu peut-être que nous sommes appelés à découvrir. Là aussi, je pense que ça correspond à une certaine maturité spirituelle, mais vraiment, c'est quelqu'un que que le Père Marie-Eugène découvre et avec qui il noue des relations d'amitié. On pourrait dire que la grâce de Thérèse Avila, c'était de considérer Jésus comme son ami. Elle l'appelle Sa Majesté, donc c'est vraiment le roi, mais c'est aussi justement celui qui se fait son intime. Et Marie-Eugène, sa grâce et son originalité, c'est d'appeler aussi l'Esprit-Saint son ami. Donc, et là, peut-être, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est peut-être en appelant l'Esprit-Saint ami qu'on devient son ami. Donc peut-être, à tous ceux qui nous écoutent, le Père Marie-Eugène inviterait peut-être avoir cette audace de l'invoquer comme un ami. L'Esprit-Saint, de lui parler, de lui confier peut-être certains de nos soucis, parce qu'il n'attend que ça aussi, l'Esprit qui ne fait qu'un avec le Père et le Fils. Hein.
Voilà, découvrir cette amitié avec l'Esprit-Saint. Allez, je vous propose de nous arrêter quelques instants pour une pause musicale. Thank you.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
En ce jour où nous fêtons l'ordination sacerdotale à Rodez du Père Marie-Eugène, nous en profitons pour faire un grand coup de projecteur sur ce bienheureux. Vous nous disiez, frère Baptiste, que voilà, il a été béatifié le 19 novembre 2016. Des bruits courent que sa canonisation est proche.
Exactement.
Voilà, on espère, on attend.
On espère, voilà. Oui, bien sûr.
Un deuxième miracle aurait été reconnu alors, c'est ça?
C'est ça, c'est ce que les bruits qui courent suggèrent.
Bon, patience. Le père, le bienheureux Marie-Eugène découvre la petite Thérèse à l'âge de 13 ans. Ça fait déjà 10 ans qu'elle est entrée dans la vie, selon son expression. Que comprend-il de la spiritualité de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus?
Alors déjà, il en fait sa... On pourrait dire son amie, elle aussi
ouais.
En particulier dans les tranchées, où il lui demande la grâce, justement, qu'avec tous ces hommes, il puisse être préservé pendant la grande guerre de 14-18. Et effectivement, il obtient cette grâce pour lui et puis tous les soldats qui lui ont été confiés. Et donc, on pourrait dire que Marie-Eugène est l'un des premiers. Alors, c'est Henri Grialou à l'époque, il n'est pas encore entré au Carmel. Mais il fait partie de ces poilus qui... ont bénéficié du secours de Thérèse et en fait, ils ont été nombreux. Il y a un livre qui est sorti dessus, justement sur l'intervention de la petite Thérèse dans les tranchées de la guerre 14-18. Et c'est assez phénoménal de voir peut-être qu'un des premiers lieux d'apostolat de Thérèse, c'est justement pendant cette guerre terrible, parmi toutes les guerres, enfin c'était l'une des plus horribles que la France ait connue. Donc on pourrait dire que c'est chez le père Marie-Eugène, c'est déjà du concret, c'est-à-dire une expérience de salut dont il bénéficie avec Thérèse. Et ensuite... je pense que une autre de ses particularités, c'est de comprendre très tôt l'apport doctrinal de Thérèse. Pour lui, ce n'est pas que la petite sainte, on pourrait dire aux fleurs et aux roses. Oui. Il voit que derrière ces paroles qui semblent mièvres à certains, en fait, se cache une vraie doctrine spirituelle du feu. Il la reconnaît comme disciple de Jean de la Croix. Et il voit très vite qu'elle donne un coup de projecteur sur le mystère de Dieu en mettant en lumière le feu, en quelque sorte, de sa miséricorde. Et il voit en elle, justement, déjà, avant qu'elle ne soit proclamée par Jean-Paul II, elle voit en elle un docteur, en fait. Donc, il saisit l'envergure doctrinale de l'enseignement de cette jeune fille. Et elle fait partie, justement, des grandes autorités qu'il convoque dans Je veux voir Dieu, justement, pour parler de la vie spirituelle. Donc, je pense qu'il y a ces deux aspects qui sont importants pour comprendre la relation du père Marie-Eugène avec Thérèse. Une expérience de salut dont il bénéficie, et puis vraiment la compréhension d'une mission doctrinale. Et durant ses premières années au Carmel, le père Marie-Eugène va prêcher des triduum, où il remplit les églises, notamment justement en Aveyron, où il revient dans son diocèse d'origine. Et ces triduum seront sur la petite Thérèse.
Ah oui. Oui.
Et donc les foules viennent, on se sert.
Pour,
oui, c'est ça, la cathédrale de Rodez est remplie, etc. Mais partout où il passe, donc il sent vraiment qu'elle a quelque chose à dire d'essentiel pour notre temps. Et il est l'un des premiers, finalement, à le mettre en lumière.
Mmh. Voilà. J'aimerais bien que nous parlions de la mission, puisque pour le père Marie-Eugène, c'est essentiel. Nous-mêmes avons ce désir que nos proches rencontrent le Seigneur. On parlait de ce désir du père Marie-Eugène, du salut des âmes. Quel conseil donne le père Marie-Eugène pour la mission?
Mais justement, alors, c'est ça qui le rend encore plus actuel aujourd'hui qu'avant. Parce que on pourrait dire que l'époque où il s'exprimait était marquée par l'action catholique, etc. Mais on pourrait dire une forme d'action catholique encore très catholique. C'est-à-dire qu'il était évident pour tous que la mission de l'Église se nourrissait de la vie de prière, des sacrements, etc. Et aujourd'hui, on pourrait dire que la tentation ou le danger de l'esprit missionnaire serait justement de nous compter davantage sur les outils de la mission sur son esprit. Et donc pour Marie-Eugène, il est évident, et il le rappelle déjà à son époque, mais je pense qu'il le rappellerait avec encore plus de force maintenant, qu'une mission n'est féconde que dans la mesure où elle est nourrie par justement cette prière qui parfois est aride. Et il pourrait être plus satisfaisant pour la nature humaine de justement de voir le fruit de sa mission à l'extérieur que de peiner, on pourrait dire, à se tenir devant la face de Dieu pour intercéder. Mais Marie-Eugène, aujourd'hui, dirait, en s'appuyant en particulier sur l'enseignement de Jean de la Croix, que justement, même si nous consacrions la moitié de notre temps où nous nous activons à prier et à intercéder, nous bénéficierions d'une fécondité encore plus grande aujourd'hui. Et donc, pour lui, la mission, c'est vraiment, on pourrait dire, un déploiement de ce qui a été reçu dans le temps d'horizon et l'intériorité. Et donc, il n'est pas vraiment inquiet de la manière dont la mission va se déployer, puisque si notre prière est authentique, et vraiment dans l'esprit de Thérèse Avila, c'est « le monde est en feu, donc je prie pour le salut des âmes », elle, en plus, elle est... on pourrait dire, lancée dans sa mission par cette fameuse vision de l'enfer, oui. C'est-à-dire qu'elle voit des âmes en enfer, où elle voit la place qui lui est réservée en enfer, et c'est pour elle une sorte d'électrochoc, et elle veut justement se donner corps et âme pour que les âmes puissent entrer au ciel. Et donc, il y a chez elle cette prière qui est nourrie d'intentions apostoliques. Et donc, si la prière est authentique, finalement, la mission d'elle-même se déploiera. Donc, je pense que le grand conseil qu'il donnerait encore plus aujourd'hui, c'est finalement d'être encore plus aujourd'hui où nous sommes extériorisés par beaucoup de moyens, les réseaux sociaux, les initiatives, le décuplement, on pourrait dire, de l'efficacité visible par le moyen de la technique. Il insisterait, je pense, encore plus aujourd'hui sur cette intériorité, cette prière qui est à la source de toute mission.
Oui, le Père Marie-Eugène écrit « Commence par chercher l'Esprit Saint ».
Exactement. Exactement, et c'est lui qui finalement nous envoie peut-être là où nous n'aurions pas imaginé aller. Et ce sera justement là où l'Esprit nous attend que nous serons féconds.
Et il dit aussi, l'Esprit Saint fortifiera notre générosité, il stimulera notre créativité missionnaire.
Oui, exactement. Et je pense là aussi, il y a des points qui sont importants dans ces deux mots. C'est-à-dire que la générosité, c'est vrai que, on pourrait dire que la facilité des outils techniques, justement, pourrait endormir notre volonté. Et on voit que chez Marie-Eugène, disciple des deux Thérèse d'ailleurs, la prière n'a rien et la vie spirituelle n'a rien de quiétiste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une voie de tout repos. Et au contraire, justement, l'Esprit Saint ne nous fait pas abdiquer notre volonté, mais au contraire vient la fortifier et lui faire consentir à des choses qu'elle n'aurait peut-être pas acceptées sans l'Esprit Saint. Et donc, c'est vraiment un esprit de force. Et je pense qu'il, là aussi, il y a un point d'actualité pour notre temps où nous avons du mal à nous engager et à être ferme, on pourrait dire, dans nos engagements. Marie-Eugène, on pourrait dire, rompue déjà par la guerre et la dureté de son temps, nous inviterait justement à demander à l'Esprit d'être ferme dans nos décisions. Parce que c'est peut-être que justement, nous nous fermons des portes quand nous nous engageons, mais en réalité, en nous déterminant, nous choisissons une fécondité sur le long terme et sur la... on pourrait dire sur le pari de la fidélité.
Voilà. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que dans la mission, il y a souvent un sentiment d'échec ou de découragement qui peut arriver. Que suggère le Père Marie-Eugène ?
Alors là aussi, avec la petite Thérèse, je pense qu'il la verrait sous un angle positif. C'est-à-dire que ces sentiments d'échec, il les a connus, évidemment. Même à travers des missions qui étaient réussies, il disait toujours que avant ou après, il se prenait une tuile, peut-être pour le garder dans l'humilité.
Oui, c'est ça.
Donc, d'une manière ou d'une autre, même dans certaines missions qu'il n'aurait pas choisies, notamment quand il est nommé directeur d'un petit séminaire, ce qui ne correspondait pas du tout à ses aspirations. Donc là aussi, il y a une sorte d'échec dans son sentiment de réussite humaine, en fait. Hein. En fait, pour lui, ayant bien compris le cœur de l'enseignement de la petite Thérèse, c'est surtout à travers ses échecs que finalement l'union à Dieu se joue et la grande contemplation, c'est l'échec apparent de la croix, hein. Jésus sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qui devient la source du salut pour toute l'humanité. Et donc, c'est vraiment en unissant nos échecs avec la passion du Christ que le mystère pascal se rejoue dans sa vie et aussi dans nos vies. Et c'est peut-être à ce moment-là que nous nous offrons à Dieu avec le plus de pureté d'intention. Quand tout nous réussit, est-ce que c'est nous qui nous offrons ou alors notre ego qui est satisfait?
Oui.
Alors évidemment, il ne faut pas chercher une sorte de pureté idéale. Hein. Mais il y a toujours cette... c'est toujours un peu mêlé. Quand nous sommes plutôt dans l'échec et que nous persévérons à nous donner à Dieu... Eh bien, finalement, le feu de la miséricorde divine peut nous embraser peut-être plus largement. Et donc, la petite Thérèse découvre bien hein, que plus elle se rapproche de Dieu et plus c'est par ses échecs et par sa petitesse qu'elle attire cette miséricorde et finalement devient féconde pour la vie du monde. Et ça aussi, c'est une grande loi que le Père Marie-Eugène nous rappelle. Mmh. Ouais, donc, ne désespérons surtout pas. Au contraire, en fait, quand finalement les revers sont nombreux, c'est peut-être le moment ou jamais de nous offrir à Dieu parce que dans nos blessures, nous pourrons être unis à celles du Christ.
Hein. Oui. Frère Baptiste, cette joie d'annoncer le Christ et de voir des âmes s'en saisir ne doit pas faire perdre à l'apôtre son humilité.
Exactement, ouais. Exactement. Et là, alors, le Père Marie-Eugène, dans Je veux voir Dieu, a tout un chapitre consacré à l'humilité. Il parle évidemment de l'humilité comme d'une vertu qu'il est possible de cultiver. Il parle d'une autre forme d'humilité qui est l'humilité infuse, dont un grand carme français parlait, c'est Jean de Saint-Sanson au XVIIe siècle. Et cette humilité infuse, c'est finalement une humilité qui est donnée par Dieu et qui est le propre des saints, c'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, ils sont mis devant le mystère de Dieu. Vous voyez, il y a cette fausse humilité qui est celle de ceux qui ont bien lu les saints et qui essayent de les imiter. Je suis nul, etc. Voilà. Enfin, ouais. Donc, ils essayent de reprendre des formules toutes faites et de se les appliquer pour faire croire qu'ils sont humbles. Et en fait, cette humilité-là, finalement, ne trompe pas ou pas très longtemps. Et il y a cette vraie humilité qui consiste à accueillir la vérité de ce que nous sommes, les échecs comme les réussites, mais finalement à les contempler devant le mystère de Dieu et à voir que c'est tellement Dieu qui fait tout en nous qu'elle est joyeuse, elle est humble, elle est petite et finalement elle nous fait nous réjouir d'être ses enfants. Et je crois que c'est cette humilité-là que le Père Marie-Eugène avait qui était d'ailleurs conscient aussi de ses défauts et de ses traits de caractère parfois incisifs. Il le savait.
Il avait un fort caractère.
Il avait un fort caractère, il était avéronais. Parfois qui a fait quelques éclats. Hein, ouais. Et certains en ont souffert. Donc les saints n'étaient pas impeccables sur tous les plans, hein, si ce n'est la Vierge Marie et le Seigneur Jésus, évidemment. Cette humilité de fond, il l'avait lui aussi. Et elle était infuse, c'est-à-dire qu'elle était le fruit de son contact et de sa relation avec Jésus. Il y a que... Finalement, c'est aussi ce que disait Thérèse Avila avant le Père Marie-Eugène, hein, c'est « contemplez-le lui et vous verrez la vraie humilité ». Regardez comme il est silencieux devant Pilate et voyez justement à quelle forme d'humilité vous êtes appelé. Donc c'est cette humilité-là que le Père Marie-Eugène nous fait désirer, celle qui vient de notre relation à Dieu.
Pour terminer, frère Baptiste, j'aimerais bien que vous nous donniez des conseils de lecture, puisque vous êtes venu avec un certain nombre d'ouvrages sur le Père Marie-Eugène.
Alors, il y a deux gros ouvrages, à celui dont on a déjà parlé, hein, « Je veux voir Dieu », qui est un classique maintenant. Et finalement, c'est vrai que c'est toujours, ce sera difficile de faire mieux, la meilleure synthèse hein, de théologie spirituelle. Et donc, c'est le béaba qui vous prend du début jusqu'à la fin de votre vie spirituelle et qui nous donne le meilleur de l'enseignement du Père Marie-Eugène. Donc, un livre qu'il est possible aussi de consulter d'une manière thématique, chapitre par chapitre. Le don de soi, l'humilité, la contemplation, ce sont des choses que le Père Marie-Eugène traite séparément, mais aussi au sein d'un chemin et d'une cohérence. Voilà. Il y a un deuxième gros livre qui est plus récent, qui sont les écrits d'une vie. Et c'est une autre manière d'aborder le père Marie-Eugène à travers ses œuvres publiées, mais sous forme d'articles ou de conférences qu'il a données. Et donc tout ce qui a été publié du père Marie-Eugène est recueilli dans un seul livre et qui est justement sorti cette année. Donc écrit d'une vie et qui finalement nous donne le même contenu substantiel, on pourrait dire, que Je veux voir Dieu, mais d'une autre manière, à travers même l'évolution des écrits du père Marie-Eugène. Donc, voilà,
et ça, qui peut se lire, voilà, pas forcément en continu.
Exactement. Voilà. Là aussi, il y a des articles thématiques, le prophète Élie, la Vierge Marie, Saint Joseph, etc. Donc, et en particulier, justement, ces premiers enseignements du père Marie-Eugène sur la petite Thérèse. Donc on voit comment est-ce qu'il l'a connue et très vite comment il la met en lumière en découvrant justement le cœur de son enseignement qui est la découverte de la miséricorde divine. Et sinon, alors là, c'est vraiment beaucoup plus simple et directement accessible. C'est une collection, la collection Père Marie-Eugène. Vous avez des livres qui, certains d'ailleurs, commencent eux aussi à devenir des classiques comme Au souffle de l'esprit, Comment faire de l'Esprit Saint son ami, Jean de la Croix, Présence de lumière, l'enseignement du Père Marie-Eugène sur celui justement qu'il avait attiré au Carmel. Hein. Le tout dernier, là, c'est Le charpentier de Nazareth, ce sont des entretiens sur Saint Joseph. Et cette collection recueille, on pourrait dire, les enseignements oraux du père Marie-Eugène dans des homélies ou des retraites et les retraduit sous forme de petits livres, ce qui justement donne un caractère assez accessible parce que c'est ce que le père Marie-Eugène disait d'abondance de cœur qui est recueilli dans ses livres et qui finalement à travers des thèmes différents nous fait toujours revenir au cœur brûlant de ce qu'il veut nous transmettre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire conduire les âmes à Dieu. Donc comment à travers la contemplation de Saint Joseph on est amené à mieux connaître Dieu et à nous unir à lui, ou à travers Jean de la Croix ou l'Esprit Saint ou d'autres thèmes qui sont dans cette collection.
Un dernier mot, frère Baptiste, pour conclure sur ce père Marie-Eugène, ce bienheureux.
Eh bien, écoutez, je pense ce qu'il a vécu avec Jean de la Croix, c'est-à-dire une rencontre, on peut le vivre aussi avec lui. Et c'est vrai que je suis étonné de voir à quel point certains le découvrent non seulement à travers ses écrits, mais aussi à travers sa présence toujours agissante. Donc, il est père peut-être qu'à certains des auditeurs, il souhaite se manifester comme tel, et en particulier peut-être pour ceux qui ont du mal à prier, bah pourquoi pas invoquez-le, prenez-le comme père spirituel, parce que sa mission n'est pas terminée et je crois qu'il a toujours envie de conduire les âmes à Dieu. Donc père Marie-Eugène, priez pour nous et venez à notre secours dans nos difficultés de prière et en particulier de cette forme de prière qu'il a voulu enseigner, qui est l'oraison, ce cœur à cœur avec Dieu.
Merci beaucoup, frère
Baptiste.
Merci
à vous.